bien. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Ça y est, tout va bien. Voilà, excusez-moi. Donc, bienvenue à toutes et tous pour La Révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc, je reviens de la conférence de presse qui a été organisée par les associations féministes, universalistes et laïques pour le 8 mars et qui appelle à un rassemblement, une manifestation au bas de la Canebière à 14h. Dans le monde entier, les femmes luttent au péril de leur vie. Nous sommes solidaires de toutes ces femmes contre la montée des extrémismes religieux, politiques et les conservatismes. La laïcité est le seul cadre politique dans lequel peut se construire l'égalité, garant de l'émancipation. Nous combattons de longue date la précarité, remise sur le devant de la scène avec force par les Gilets jaunes. Ensemble, nous revendiquons nos droits, nous luttons contre le patriarcat et le néolibéralisme. Ensemble, luttons pour l'égalité salariale et professionnelle, pour le retrait du projet de retraite à points, pour la fin des violences conjugales, de l'inceste, de la pédocriminalité, de la prostitution, de l'exploitation marchande de nos capacités reproductives et que cesse la complaisance envers les réseaux prostituteurs. Donc cet appel a été signé par les principales associations universalistes féministes comme Oser le féminisme, Marche mondiale des femmes PACA, Femmes solidaires Marseille, l'Assemblée des femmes. Il y a aussi l'association des femmes kurdes, il y a aussi l'Union des femmes GAMS Sud qui lutte contre l'excision avec Nakissi Savané. Il y a le SEL, il y a SOS Femmes 13, Mouvement Jeunes Femmes, Femmes Solidaires 13, l'Amicale du Nid, Collectif 13-3 des Femmes, Génération Marseille, le MRAP 13, Attaque Marseille et la FSU 13. Donc comme je vous disais, j'étais à la conférence de presse. Je vais vous faire écouter justement ces femmes de ces principales associations qui y étaient pour leur message pour le 8 mars. Donc d'abord, je vais vous faire écouter Annick de Femmes Solidaires Marseille. Et puis, je compléterai aussi, puisque en fait, c'est un audio qu'elle m'avait envoyé avant la conférence de presse de ce matin. Donc, je compléterai avec tout ce qui ne m'a pas été transmis, voilà, puisque j'y étais. Donc, je vous ferai part un petit peu, petite synthèse de tout ce qui s'y est dit. Donc, je vous fais d'abord écouter donc Femmes Solidaires avec Annick Carcenti, donc. Je vous la laisse écouter.
Voilà, bonjour Nadia, c'est pour te parler du 8 mars. Alors, cette année, le 8 mars est particulièrement important. En 2019, il y a eu 151 féminicides. Et féminicides, c'est-à-dire assassinat de femmes parce qu'elles sont femmes. Nous avons connu le Grenelle des violences qui n'a rien donné. Nous attendons toujours le milliard d'euros. Et aujourd'hui, nous sommes le 18 février et il y a déjà 15 féminicides. Donc la journée du 8 mars est particulièrement importante, d'autant qu'elle s'inscrit aussi dans une lutte très importante contre les retraites imposées par le gouvernement Macron qui vont impacter particulièrement les femmes. Ce 8 mars, nous sommes aussi solidaires des femmes du monde entier. Et nous sommes solidaires de manière très précise. Chaque fois que des femmes gagnent dans le monde, nous gagnons aussi et inversement. Donc la solidarité internationale qui se manifeste le 8 mars est très très importante. Nous sommes solidaires des femmes kurdes, des femmes palestiniennes, des femmes chiliennes qui montrent l'exemple en ce moment. Et de toutes les autres femmes, bien sûr, en Amérique latine, aux États-Unis, qui luttent en Pologne, qui luttent pour améliorer leurs droits. En France, la réforme des retraites va toucher particulièrement les femmes. Déjà, les retraités touchent 40% en moyenne, bien sûr, de retraite que les hommes. Et donc, cette retraite-là va encore plus aggraver la situation des femmes retraitées. Nous avons des salaires de 19% inférieurs à ceux des hommes quotidiennement. D'ailleurs, à 15h40, nous travaillons de manière gratuite. Ça aussi, il faut le mentionner. Et puis, il y a toutes les discriminations sexistes et racistes que subissent les femmes. Il y a aussi les militantes, il y a aussi toutes les femmes migrantes qui arrivent en France et qu'il faut soutenir sans travail et qui vont grossir les réseaux de prostitution. Voilà, tous ces éléments font qu'il faut que le 8 mars, encore plus que l'année dernière, nous soyons tous et toutes dans la rue. La Réunion unitaire, qui regroupe beaucoup d'associations féministes, syndicats et partis politiques, vous appelle tous dimanche.
Moi, donc je vous laisse,
Bonjour,
pardon, et je
bonjour
vous
Radio
laisse écouter
Galère,
maintenant Marie-Paul
bonjour, la révolution
Grosse-Tête
sera féministe.
de Oser le
Merci
féminisme.
Nadia de nous permettre de parler du 8 mars. Je suis Marie-Paul Grosse-Tête de Oser le féminisme dans les Bouches-du-Rhône. Alors, la journée du 8 mars, évidemment, cette journée de lutte pour les droits des femmes à l'international, comme le disait Annick. De femmes solidaires, c'est évidemment une journée très importante parce que c'est le seul moment de l'année où on peut faire apparaître que les femmes du monde entier travaillent en réseau féministe pour leurs droits. C'est aussi le moment de rappeler toutes celles qui sont outre nos frontières, là pour réclamer leurs droits, là où elles peuvent être battues. Violée pour ça, emprisonnée, voire même tuée. Et ça peut être pour des tas de raisons. Il y a la question du droit à l'IVG qui est très importante parce que partout en Europe, le droit à l'IVG régresse. Il régresse en Hongrie, en Pologne, il régresse en Italie où là, la majorité des gynécologues, je crois que c'est 75%, oui, refusent, ces gynécologues, donc pour la très grande majorité, font jouer une clause de conscience et refusent de pratiquer l'IVG. Donc, refuser le droit à l'IVG, ça n'empêche pas les femmes d'y recourir de manière clandestine et ça va donc les exposer à des risques extrêmement graves qui exposent leur vie. Donc, les droits des femmes ne sont pas respectés à l'international. Ils ne le sont pas non plus en France, bien évidemment. C'est ça aussi qu'on va dire le 8 mars, toutes ensemble. On va dire que oui, en ce qui concerne l'IVG aussi, il y a des difficultés matérielles dans certains départements en particulier où les infrastructures manquent pour accueillir les femmes par rapport à ce droit. Donc, le droit dans la loi, ça ne suffit pas, hein. La République française prévoit l'égalité, dans les droits. Eh bien, ce n'est pas réalisé pour les femmes, pour l'accès à l'IVG, mais d'une manière générale, pas d'égalité non plus dans les salaires, 20% toujours d'écart, 40% d'écart pour la question des retraites. Donc, on sera là le 8 mars dans la rue pour crier notre opposition au projet de loi de réforme des retraites présenté par le gouvernement Macron. Et donc, les syndicats sont avec nous pour réclamer ce droit à l'égalité au moment de la retraite également. Le 8 mars, on va rappeler qu'il n'y a pas d'égalité au niveau des salaires et des retraites, pas d'égalité non plus en ce qui concerne la sécurité. La sécurité, les femmes ne sont pas en sécurité. Nous vivons dans la culture du viol. 99% des violeurs ne sont pas condamnés. Et pour les pédocriminels, c'est pire encore, puisque c'est 99,6%, c'est-à-dire 0,4%, c'est-à-dire rien du tout, des pédocriminels violeurs qui sont condamnés. Donc on voit bien avec l'affaire Matzneff, l'affaire Polanski et Tutti Quanti, combien les pédocriminels, si tant est qu'ils soient un tout petit peu connus ou puissants, échappent à la justice. Et échappe même à la vindicte populaire, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de gens qui vont nous faire des discours sur on sépare l'homme de l'artiste. Bon, écoutez, comme l'écrit Virginie Despentes dans sa rubrique lundi, eh bien, les femmes et les filles violées, elles ne séparent pas leur état de filles violées de leur vie quotidienne au travail ou dans leur vie ordinaire. Donc, on se moque de nous quand on nous raconte que voilà, il faut séparer soi-disant l'homme de l'artiste, vaste fumisterie. Donc les violences, c'est tout ce continuum, évidemment, du harcèlement de rue jusque à la violence par prostitution, qui est un viol tarifé. Voilà, donc tout ça, on aura à le dire. Il y a aussi, bien sûr, des inégalités par rapport à des femmes qui subissent des discriminations multiples du fait qu'elles sont des femmes, mais aussi qu'elles sont des filles, c'est-à-dire très jeunes, donc exposées à la violence, plus encore parce qu'elles sont plus vulnérables, parce qu'elles sont en situation de handicap, parce qu'elles sont lesbiennes, bisexuelles, parce qu'elles sont issues de l'immigration ou noires, exposées au racisme. Tout ça, on le dira le 8 mars, 14 h, rendez-vous en bas de la Canebière. On sera là pour se rassembler et puis pour manifester ensuite.
Voilà. Donc je vais un peu compléter, comme je vous disais, puisque j'étais ce matin à la conférence de presse, et donc j'ai pu écouter aussi Geneviève Courault, qui représente l'Assemblée des femmes. En fait, elle a rappelé d'ailleurs que l'Assemblée des femmes avait été créée par Yvette Roudy, et c'est grâce à elle qu'en 92, cette journée du 8 mars a pu être instaurée. Actuellement, l'Assemblée des femmes est présidée par Laurence Rossignol. Donc, Geneviève Courault, elle aussi, a rappelé l'importance de la solidarité internationale. Cette journée du 8 mars est une journée de solidarité. Et elle a rappelé notamment les affronts de Trump, de Bolsonaro contre les femmes. Elle a parlé de Trump vient de signer avec les talibans, on se demande à quel titre, un accord de cessez-le-feu dont la première conséquence sera le recul des droits des femmes en Afghanistan et qui jette déjà le pays dans une grande violence. Il faut savoir que les talibans, grâce à cet accord, viennent d'obtenir en négociant le retrait de l'article 2 de la Constitution afghane qui reposait sur l'égalité femmes-hommes. Elle a rappelé aussi, comme rappelait Marie-Paule Grosstête, l'importance de l'accès à l'IVG. Donc elle aussi a beaucoup insisté sur cela et a rappelé qu'il y a un recul de l'accès à l'IVG dans le monde entier et aussi notamment aux États-Unis, comme vous avez peut-être pu suivre dans de nombreux États, l'accès à l'IVG est devenu impossible, et grâce encore une fois à Trump, qui a nommé à la Cour suprême des juges anti-avortement, et elle a rappelé que nous avions manifesté devant le consulat des États-Unis pour parler de cela. Ensuite, elle a parlé de quelque chose qui me semble très important et dont on entend effectivement très peu parler. Elle a parlé des femmes invisibilisées. On parle beaucoup des LGBTQI, etc. C'est bien, mais on oublie que la grande partie des femmes invisibilisées sont les femmes précaires, les femmes pauvres. Marie-Paule l'a rappelé aussi. Et celle-là, eh bien, qui en parle? Justement, elle a regretté que dans les programmes politiques qui actuellement sont montés, puisqu'il va y avoir bientôt les élections municipales, eh bien, elle a regretté que pratiquement aucun programme politique, que ce soit de tous bords, ne s'intéresse assez à cette question de l'égalité homme-femme. Et carrément, on fait disparaître le mot femme de leur programme. Et cela, elle explique que c'est très grave, puisque ça noie complètement cette question de l'égalité homme-femme. Le mot n'existe même plus. Cette question est noyée dans ce qu'on appelle globalement les discriminations. Voilà, donc je pense aussi que je l'inviterai prochainement, puisque bon, elle est très très occupée, mais j'espère qu'elle pourra venir dans cette émission pour parler de la question de la précarité des femmes, de la santé des femmes. Il faut savoir que 64%, donc au niveau de la santé, il y a une forte inégalité aussi femmes-hommes. Elle a rappelé que 64% des femmes chaque année renoncent à se soigner. Voilà, donc cette invisibilité des femmes précaires. Donc je vais revenir, non, avant de revenir sur l'aspect international des luttes des femmes, je vais aussi vous parler de Naki Sisavané, qui ne pouvait pas être là à la conférence, mais qui nous a téléphoné. Et nous sommes donc partenaires avec elle, puisqu'elle lutte contre l'excision. Et elle nous a effectivement dit que le fait que nous soyons universalistes est très très important pour elle, puisque c'est la seule notion qui permet de défendre tous les droits des femmes, que l'on soit blanche ou noire. Nous pouvons comprendre que l'excision nous concerne, que c'est une torture et que c'est un continuum par rapport au contrôle des femmes sur leur corps et leur sexualité. L'excision étant, on va dire, peut-être le summum des atrocités que l'on peut commettre encore aujourd'hui dans le monde sur le corps des femmes et sur leur sexualité. Et ça aussi, on en parle. Qui en parle ? Bien, nous, mais très peu de... C'est un sujet dont on ne parle pas assez. Voilà, donc on lui a demandé de nous préciser un petit peu ce qu'elle faisait. Donc elle a une association, la GAMS Sud, donc nous travaillons avec elle, Femmes Solidaires, et aussi travaille avec elle sur ce sujet de l'excision. Femmes Solidaires a aussi un projet pour les femmes en Éthiopie, a permis, donc Annick aussi a rappelé qu'ils ont permis en Éthiopie à des petites filles, grâce à leur projet de solidarité internationale, de ne pas être excisées. Donc je reviens sur Nakissi Savané. À Marseille, depuis 10 ans, elle parcourt toute la région PACA. Elle a permis de former des professionnels de santé, puisqu'ils ne connaissaient pas, en fait, il y a 10 ans, ce que c'était même que les mutilations génitales féminines. Et ils étaient confrontés aux problèmes des femmes enceintes et des femmes qui accouchent et qui sont excisées. Et évidemment, cela pose énormément de problèmes. Les risques pour elles sont très, très fort, encore bien plus fort que pour une, voilà, les risques que ça se passe pas bien du tout. Donc elle a aidé à les former sur ce sujet. Elle a expliqué que les infirmières qui ont été formées grâce à son association deviennent elles aussi un relais pour lutter contre l'excision. Ensuite, ce qu'elle fait, c'est que elle informe les femmes qui vivent en France et qui connaissent l'excision, elle les informe de leurs droits pour qu'elles sachent qu'en France, c'est considéré un crime et qu'elles puissent ainsi protéger leur fille à naître afin qu'elle ne soit pas excisée, elle aussi, ce qui peut se passer lorsque, par exemple, les petites filles qui naissent en France, originaires de pays où on pratique l'excision, quelquefois, au cours d'une vacance, au retour du pays, se font malheureusement exciser. Donc, si on forme leur mère à lutter contre ça, eh bien, on a des chances à ce qu'elles soient protégées. Il faut savoir aussi qu'en France, la loi protège les petites filles et qu'une petite fille étrangère aussi en France peut demander un statut particulier pour se protéger de l'excision et pour obtenir du coup l'asile en France. Voilà, donc je vais revenir aussi sur la lutte des femmes à l'international. Je pense comme elle que c'est très important d'en parler. Et c'est ce que j'avais prévu aussi de faire. Par exemple, là tout à l'heure, je vais vous parler plus particulièrement des femmes iraniennes, puisqu'on n'en parle pas non plus assez. Alors, je vous ai parlé donc de Trump, de Bolsonaro, l'Europe de l'Est aussi, où l'accès à l'IVG est très compliqué, en Hongrie, en Pologne, l'accès à une éducation sexuelle est même pratiquement impossible. Donc, il y a un recul au niveau international, au niveau européen aussi, on le voit bien, des droits des femmes avec des gouvernements complètement régressifs et puis qui s'allient finalement avec des extrêmes politiques et des extrêmes religieux, bien souvent. Il faut rappeler par exemple la Turquie d'Erdogan aussi. D'ailleurs, rappeler aussi qu'il y a eu un projet de loi récemment en Turquie, controversé, surnommé « Épouse ton violeur », où les législateurs prévoient de présenter au Parlement turc, il prévoyait à la fin du mois de janvier, qu'un homme qui aurait violé une fille mineure puisse ne pas être poursuivi tout simplement en se mariant avec elle, ce qui existe déjà, qui a déjà existé dans pas mal de pays. Mais normalement, ça, c'est quelque chose qui est en recul. Mais en Turquie, c'est revenu au goût du jour. Et donc, ça a suscité la fureur des militants des droits des femmes et des enfants dans le pays. Donc, on espère que ce projet ne passera pas. Ne pas oublier les femmes kurdes qui, les armes à la main, défendent les droits des femmes contre Daesh et la Turquie. Rappelons Nudem Durak, la chanteuse kurde emprisonnée dans les geôles d'Erdogan. Et d'ailleurs, les femmes turques seront à nos côtés le 8 mars, avec nous. Ne pas oublier ce qui se passe en Russie avec la dépénalisation des violences conjugales. Ne pas oublier l'Amérique du Sud, l'Argentine, où l'interruption de volontaire de grossesse est interdite. Une femme meurt chaque semaine des suites d'un avortement clandestin. Il faut se rappeler que le 14 juin 2018, les députés argentins avaient dit oui à la légalisation de l'IVG. Malheureusement, le 9 août, par 38 voix contre 31, le Sénat avait finalement rejeté le projet de loi. Et pendant 8 semaines, ce projet avait été âprement discuté au Sénat, mais aussi dans les rues, où des dizaines de milliers de militants pro-avortement ont manifesté pour défendre ce droit fondamental. Donc il y a un film qui est sorti qui nous rappelle cette lutte des femmes en Argentine qui s'appelle QCLA, que ce soit loi, qui montre des témoignages de femmes et d'hommes qui arborent le foulard vert de la campagne pour l'avortement libre et qui dresse un portrait des féministes argentines et montre un espoir malgré tout que leur mobilisation a fait naître en Argentine comme dans de nombreux autres pays d'Amérique du Sud. Voilà, donc je vais rappeler aussi, ben, par exemple, les Mexicaines, puisque je suis en Amérique du Sud, elles appellent à une grève nationale le 9 mars, donc le lendemain du 8 mars, car il faut savoir qu'au Mexique, il y a une série de féminicides extrêmement violents, et ceci depuis déjà de nombreuses dizaines d'années. Donc, les Mexicaines appellent à une grève nationale le 9 mars et elles se proposent de ne pas se présenter au travail, de ne pas aller à l'école, de ne pas y emmener leurs filles, de ne rien acheter. Elles invitent également les hommes à agir en alliés et à appuyer les femmes de cette journée-là. Donc leur objectif, c'est quoi? C'est rendre visible le rôle des femmes dans la société mexicaine et poser par cette grève un geste radical contre le féminicide, la misogynie et l'inégalité. Donc par rapport au féminicide au Mexique, eh bien comme je vous disais, depuis des décennies, on assiste à des féminicides en masse et une impunité. Ça avait commencé dans la communauté de Ciudad Juárez dans les années 90. Récemment, il y a eu des meurtres, notamment Ingrid Escamilla, la jeune Fatima Cecilia Drighetti. Chaque jour au Mexique voit non moins de 10 femmes assassinées, 4 enfants enlevés. Et il est rare que les autorités résolvent ces affaires ou punissent les criminels en cause. Voilà. Donc maintenant que je pense à l'Amérique latine, je me souviens aussi Annick de Femmes Solidaires ce matin, donc à la conférence de presse, a rappelé aussi le cas dramatique du Salvador où l'IVG est totalement impossible et où des femmes qui avaient fait une fausse couche à l'hôpital ont été accusées de vouloir avorter et avait été condamnée à 30 ans de prison. Elle a rappelé que Femmes Solidaires Nationales a permis, très bonne nouvelle grâce à son action de pression, de plaidoyer pour les droits des femmes, de faire sortir de prison 2 militantes péruviennes qui appelaient à une nouvelle constitution. Aussi au Pérou où le même problème se pose. Voilà. Donc, je vais faire une petite pause musicale avant de passer à un autre sujet. Je pense, bon, notamment, je vous annonce les sujets dont je vais parler tout à l'heure. Je pense que je vais parler de la lutte des femmes iraniennes, puisque là, je l'ai un petit peu évoquée et je pense que c'est très important. Et puis, voilà. Et puis, bon, ben, peut-être d'autres sujets à venir. Donc, je vous fais écouter en attendant une petite musique de Ennio Morricone. Toujours bienvenue. À tout de suite. La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, avant de vous parler du combat des femmes iraniennes, je vais rebondir sur ce qu'a dit aussi tout à l'heure Marie-Paul par rapport à la pédocriminalité, par rapport à Roman Polanski. Donc, dans mon dernier podcast de la révolution féministe, j'avais abordé ce sujet déjà, puisque en tant qu'association féministe, eh bien, nous nous révoltions contre le fait que Roman Polanski avait obtenu 12 nominations au César. Et nous avions rappelé aussi que cette Académie des Césars est une académie sexiste, où seulement 6% des femmes sont récompensées par un César, où seulement 35% des votants sont des femmes. Et pourtant, le cinéma, c'est un domaine où les femmes sont très nombreuses, encore plus nombreuses que les femmes, que les hommes, pardon, dans ce domaine-là, puisqu'il y a 55% de femmes qui étudient dans ce domaine. Donc elles sont complètement sous-représentées et invisibilisées. Donc pour revenir sur cette affaire Polanski et sur cette pédocriminalité, donc c'était un des sujets de mon dernier podcast, eh bien j'ai lu effectivement, elle a parlé de la tribune de Valérie Despentes, de Virginie Despentes, pardon. Et cette tribune, effectivement, est très bien écrite et est très, très forte. Donc, comme elle est très longue, c'est environ 4-5 pages. Je ne vais pas vous lire 4-5 pages. Mais je vais quand même vous lire quelques extraits, en fait, qui sont vraiment très, très pertinents. Voilà. Donc, je cite Virginie Despentes, sa réaction. Et c'est exactement à cela que ça sert, la puissance de vos grosses fortunes. Avoir le contrôle des corps déclarés subalternes, les corps qui se taisent, qui ne racontent pas l'histoire de leur point de vue. Le temps est venu pour les plus riches de faire passer ce beau message. Le respect qu'on leur doit s'étendra désormais jusqu'à leurs bites tachées du sang et de la merde des enfants qu'ils violent. Que ça soit à l'Assemblée nationale ou dans la culture. Marre de se cacher et de simuler la gêne, vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, ça vaut pour les exactions de votre police, ça vaut pour les Césars, ça vaut pour votre réforme des retraites. C'est votre politique. Exigez le silence des victimes. Ça fait partie du territoire. Et s'il faut nous transmettre le message par la terreur, vous ne voyez pas où est le problème. Votre jouissance morbide avant tout. C'est votre propre puissance de frappe monétaire que vous venez aduler. C'est le gros budget que vous lui avez octroyé en signe de soutien, que vous saluez. À travers lui, c'est votre puissance qu'on doit respecter. Donc elle avait rappelé précédemment le budget qui avait été octroyé à Roman Polanski pour son film, c'est-à-dire 25 millions d'euros. Voilà. Et en fait, donc ce film avait été promulgué, encensé, voilà, et maintenant récompensé par les Césars. Donc je poursuis. Ça fait des mois que vous vous agacez de ce qu'une partie du public se fasse entendre. Et ça fait des mois que vous souffrez de ce qu'Adèle Haenel ait pris la parole pour raconter son histoire d'enfant actrice de son point de vue. Alors tous les corps assis ce soir-là dans la salle sont convoqués dans un seul but, vérifier le pouvoir absolu des puissants. Et les puissants aiment les violeurs, enfin ceux qui leur ressemblent, ceux qui sont puissants. On ne les aime pas malgré le viol et parce qu'ils ont du talent. On leur trouve du talent et du style parce qu'ils sont des violeurs. On les aime pour ça, pour le courage qu'ils ont de réclamer la morbidité de leur plaisir, leur pulsion débile et systématique de destruction de l'autre, de destruction de tout ce qu'ils touchent en vérité. Votre plaisir réside dans la prédation. C'est votre seule compréhension du style. Vous savez très bien ce que vous faites quand vous défendez Polanski. Vous exigez qu'on vous admire jusque dans votre délinquance. Si le violeur d'enfants, c'était l'homme de ménage, alors là, pas de quartier. Police, prison, déclaration tonitruante, défense de la victime et condamnation générale. Mais si le violeur est impuissant, respect et solidarité. Ne jamais parler en public de ce qui se passe pendant les castings ni pendant les prépas, ni sur les tournages, ni pendant les promos. Ça se raconte, ça se sait, tout le monde sait. C'est toujours la loi du silence qui prévaut. C'est au respect de cette consigne qu'on sélectionne les employés. Voilà. Et je rappelle effectivement ce qu'a rappelé aussi Marie-Paul tout à l'heure, donc 1% seulement des violeurs sont condamnés en France, donc 90% des violeurs peuvent se promener en toute impunité. Et en ce qui concerne la pédocriminalité, ben, c'est encore pire, 0,3%. Voilà. Et puis il y avait eu des affaires récemment de pédocriminels qui n'ont pas été condamnés. Non. Et aussi, il faut se rappeler qu'en France, le seuil n'est pas passé pour les mineurs, pour dire qu'il n'y a pas besoin de savoir si un mineur est consentant ou pas consentant, c'est pas du tout le débat. On aurait voulu tout simplement qu'on ne puisse pas avoir de relations sexuelles avec un enfant en dessous de 15 ans, puisque nous estimons que c'est une violence et qu'il n'y a pas besoin qu'il prouve qu'il était consentant ou pas consentant. Mais cette loi n'est jamais passée, cette loi qui aurait dû protéger les enfants de ces pédocriminalités en France n'est pas passée. Voilà. Alors, maintenant, je vais donc vous parler de combats des femmes iraniennes. Voilà. Donc, excusez-moi, il faut que je retrouve un petit peu où j'en étais dans tout ça, puisque voilà, je change de sujet. Donc, en Iran, que se passe-t-il pour les femmes ? Eh bien, faut savoir déjà qu'en Iran, les femmes sont insultées, agressées au nom des bonnes mœurs. En Iran, les femmes et les jeunes filles ne sont autorisées à sortir de chez elles que si elles se couvrent la tête d'un foulard islamique et les membres de vêtements amples. Si elles sont vues en public sans foulard, elles sont passibles de 10 jours à 2 mois de prison ou d'une amende, et ce à partir de l'âge de 9 ans. Et dans la pratique, les autorités iraniennes ont imposé le hijab aux filles dès l'âge de 7 ans. Celles qui, au sortir de chez elles sans porter le hijab, sont régulièrement insultées et agressées en pleine rue par la police des mœurs et par les miliciens pro-gouvernementaux. Ils les arrêtent au hasard dans la rue, les insultent, les menacent, leur ordonnent de remonter leur foulard pour cacher des mèches de cheveux ou leur donnent des mouchoirs en papier pour essuyer le maquillage. Ils les agressent physiquement, les gifles, les frappent à coups de matraque, les menottes, les poussent sans ménagement dans des fourgons de police. Les auteurs de ces violences contre les femmes qui ont bravé la loi relative au port obligatoire du hijab sont de simples citoyens ou des membres en civil de la police des mœurs qui agissent au nom de la défense des bonnes mœurs. Donc, que se passe-t-il donc en Iran ? Vous avez justement des associations féministes universalistes et internationales qui s'en préoccupent vraiment. C'est un de leurs sujets très important, dont la Ligue internationale des droits des femmes. Et donc, j'ai pu trouver justement cette publication grâce à cette association. Donc, je souligne aussi, je salue Annie Sugier et la Ligue internationale des droits des femmes. Donc, Annie Sugier, cofondatrice avec Simone de Beauvoir de cette Ligue, qui travaille donc sur les sujets aussi du voilement, la lutte contre le voilement par rapport aussi aux Jeux olympiques 2014. Donc je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Alors revenons sur l'Iran. Eh bien, il faut savoir que la dernière fois que les femmes iraniennes ont pu marcher tête nue dans les rues de Téhéran, ben, c'était justement le 8 mars. Le 8 mars 1979, où en fait elles espéraient justement encore pouvoir être libres, et elles manifestaient contre la loi du hijab qui venait de passer, justement, en 1979. À ce moment-là, il faut savoir, donc, très important, que ce sont les femmes féministes universalistes qui ont agi pour les aider à ce moment-là. Et vous pouvez trouver une vidéo très, très touchante que l'on retrouve, en fait, sur le site qui est publié par Kédistan. Si vous allez sur un site qui s'appelle Kédistan, vous retrouverez cette vidéo qui date de 1979, où on voit justement que le mouvement de libération des femmes en France, MLF, était aux côtés de ces femmes iraniennes pour essayer de lutter contre cette nouvelle loi du hijab qui est arrivée en 1979. Loi, il faut le rappeler, qui avait été prononcée dès le retour de son exil doré par l'hôte privilégié de Neufle-le-Château, protégé et coucouné par le gouvernement français. Donc, que s'est-il passé de 1979 à 2020? Eh bien, depuis 1979, les femmes succombent dans les prisons d'Iran. Kurdes, persanes, baïs, baloutches, zoroastriens, awazis, turkmènes. Elles sont violées, elles sont aspergées de vitriol, bafouées, fouettées, torturées, lapidées, brûlées, pendues. 105 d'entre elles ont été exécutées sous la présidence de Rouhani, soi-disant un progressiste. Elles meurent sans relâche, dans l'indifférence, dans une extrême solitude. Les sous-sols de Téhéran, de Shiraz, de Machad, d'Hamedan, d'Ispahan sont un effrayant dépotoir de détritus et de sang. Depuis 1979, cela fait 40 ans que sous les coups de matraque, les femmes iraniennes continuent pourtant à se battre, à lutter contre le diktat des théocrates. Leurs revendications n'ont pas changé depuis les manifestations massives du temps de la révolution islamique. Elles réclament toujours les droits civils, sociaux, économiques égaux à ceux des femmes et surtout, elles refusent de porter le voile, ce chiffon moyenâgeux qui les a réduites au sommeil des morts. Donc je vais revenir en faire un petit rappel donc, de la situation des Iraniennes depuis l'instauration de la République islamique. Depuis la rue Enghelab, celle qui fut scène des grandes manifestations contre le régime du guide suprême, elle nous offre, postée sur des bancs, sur des plateformes, tout en haut des poteaux électriques, le visage de la résilience. Il faut parler de Yassamine Ariani, 24 ans, qui vient d'être condamnée en même temps que sa mère Monireh Arab Shabi et de Mojgan Kershavars à une peine totale de 55 ans de reclusion. Car, visage lumineux, cheveux découverts, elles avaient distribué des fleurs dans le métro de Téhéran. Le juge qui a décrété les peines s'appelle Mohamed Moghireh. Il est tristement célèbre suite à une autre sanction. Celle qui a catapulté les jours de l'avocate et militante en faveur des droits humains Nasrin Sotoudeh vers une condamnation de 38 ans de prison et 148 coups de fouet. Donc Nasrin Sotoudeh, c'était oui, une militante des droits humains, une militante pour les droits des femmes qui se battait auprès des femmes qui luttent contre le voile islamique. Le 19 septembre dernier, le Parlement européen a voté une résolution en faveur des femmes en Iran, réprouvant la violation de leurs droits. Malheureusement, nous toutes savons que le sort et les souffrances des prisonnières politiques iraniennes ne seront jamais soulagées par une quelconque démarche des instances internationales. Les femmes continueront à sombrer dans les geôles iraniennes, souvent accompagnées de ces jeunes enfants, dans l'asphyxie de leurs douleurs, leurs cris, leur colère, leur indignation. Nous ne pouvons pas citer ici les noms de toutes les femmes victimes du régime. Malheureusement, la liste est beaucoup trop longue. Donc je vais juste en citer quelques-unes par hommage à ces femmes, si vous me permettez. Zeynep Jalalian, Neda Naji, Narges Mohammadi, Athena Daimi, Golrokh Irai, Sina Enesari, Sepidei Kolian, Parisa Seifi, Vida Moavedi, Mariam Jalili, Majva Shariari, Bait Anei San, Farashi, Maboudé Karami, Niloufar Bayani, Sepiden Kachani, Marjan Davari, Sare Miami, Mariam Abkari, les membres du collectif féministe Nedeihe Zanan. Par un clin d'œil éphémère, depuis le nauséabond confort de notre ignorance, nous avons choisi de nous remémorer toutes ces femmes-là, la magnitude de leurs gestes, le défi de leurs regards, le vertigineux élan de leur révolte. Car le dernier bastion, le dernier territoire face à l'abîme est l'aplomb de leur voix, celle qui transperce les galeries ténébreuses dans un ultime élan de dignité et de témérité. Car il n'y a que la voix qui reste. Donc le 21 février dernier, le peuple iranien était appelé aux urnes dans le cadre d'élections législatives. Et je vais vous lire juste un extrait du communiqué qui a été rédigé justement par 12 de ces prisonnières politiques, de ces femmes enfermées dans le sinistre pénitencier d'Evin à Téhéran, où elles appellent au boycott et au rejet de ces élections. Elles disent « Ils tentent de faire voter pour leur régime autocratique depuis plus de 5 ans en répétant le mot « élection ». Depuis le premier jour où l'Assemblée d'experts a été formée à la place de l'Assemblée constituante avec les élections libres du peuple iranien, le droit à la souveraineté à l'élection du peuple iranien a été usurpé et volé. L'Assemblée consultative islamique a été formée avec l'élimination précédente de tous les groupes politiques, à l'exception du cercle étroit des tyrans totalitaires. Et chaque année, le cercle est devenu plus étroit et même autodestructeur et anti-peuple iranien. Mais le peuple iranien a énoncé son vote réel et irréversible avec le soulèvement sanglant de novembre dans les rues, dans les protestations, les grèves, et non pas comme les réformistes le souhaitent dans le processus d'élection politicienne. Ce système et ces élections n'ont pas de réponse pour le sang versé de millions de jeunes innocents. Les massacres de la décennie, en particulier le massacre d'été, les meurtres en série qui ont duré une décennie, les fusions de sang de Katoun, Abad, Islama, Shah, etc. Des exécutions massives de citoyens kurdes dans les prisons iraniennes. Elles finissent, l'avenir n'a jamais été et ne sera pas pour ceux qui s'y soumettent. Tous les défenseurs de la règle islamique sont les pions des ennemis des femmes. C'est à nous de les laisser à leurs élections entre eux et de rester hors champ de ces élections. Voilà, et pour finir, je vais vous lire un hymne féministe iranien, en hommage donc à ces femmes qui luttent. Je bourgeonne dans les blessures de mon corps, je suis une femme, une femme, une femme. Marchons ensemble côte à côte afin de nous libérer de l'injustice, dans l'égalité, un monde heureux et meilleur, sans pierre pour lapider, sans pleurs infinies, sans honte et humiliation. Construisons un autre monde d'égalité avec des valeurs de sororité, un monde heureux et meilleur. Parlons d'une voix en avançant main dans la main, construisons un autre monde et des valeurs de sororité, sans bâton de pendaison. Voilà, donc je vais en profiter aussi, donc, puisque je vous disais, vous rappeler du coup un appel. Donc je suis en train de le rechercher. Voilà, l'appel de la Ligue internationale dont je vous ai parlé, du droit international des femmes, comme je vous ai dit, cofondée par Simone de Beauvoir, actuellement présidée par Annie Sugier, qui aussi faisait partie justement du MLF dans les années 70 et qui était justement aussi auprès des femmes iraniennes, comme je vous l'ai dit, en 1979, pour qu'elles ne... parce qu'elles manifestaient donc le 8 mars 1979 pour ne pas subir toutes ces lois, cette imposition du voile islamique qui finalement, elles n'ont pas, malheureusement pas gagné. Donc je vous rappelle, voilà, l'appel de la Ligue du droit international des femmes pour interdire les signes religieux aux Jeux olympiques. Dans cette ligue, il y a Linda Veil-Curiel qui est avocate et secrétaire générale de la Ligue du droit international des femmes et qui demande au CIO et au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'interdire les vêtements religieux. Depuis le début de la campagne en vue de l'attribution des Jeux olympiques 2024 à Paris, nous avons alerté tant le CIO que la ville de Paris, et en particulier sa maire, puis le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, sur l'attitude de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, qui impose aux athlètes féminines des contraintes vestimentaires non sportives, contraires aux principes de la charte olympique, et ont instauré un véritable apartheid sexuel. Non seulement les réponses du comité d'organisation ont éludé la question que nous posions. Accepterez-vous que des athlètes violent l'article 50 de la charte olympique, qui interdit toute expression politique ou religieuse dans les sites olympiques ? Mais la commission des athlètes du CIO vient de se réunir pour réaffirmer l'importance de l'article 50 et de la neutralité qu'il impose à tous les participants au JO, sans même une allusion aux infractions commises au nom de la religion par nombre d'athlètes venant de pays de culture et de législation musulmane. Les pressions iraniennes, justement, comme si les infractions commises par les femmes sur injonction de leur autorité publique ne valaient pas la peine que l'on s'y attarde. Et puis surtout, cela vaut-il la peine de risquer de fâcher des partenaires puissants financièrement pour quelques voiles et tchador ? Or, il faut rappeler que ces championnes, que des championnes désertent, puis sont bannies à vie pour pratiquer le sport sans ces contraintes vestimentaires absurdes. Rappelons Shiva Amini, qui était la star du football iranien. Elle a été radiée à vie pour avoir disputé un match amical à l'étranger sans voile et en short. Rappelons Dorsa Derak Chani, championne d'échecs, qui a également été sanctionnée pour avoir disputé des tournois sans porter le voile. Elle joue maintenant pour les USA. Il ne faut pas oublier non plus Sadaf Kadem, qui est menacée d'emprisonnement si elle retournait dans son pays, après avoir disputé un match de boxe tête nue et en short. Et ça c'était en France. Pour ajouter à sa faute, elle était entraînée par un homme, le champion Mayar Monshipour. Récemment, la seule médaillée olympique d'Iran, Kimia Alizadeh, qui est médaille de bronze en taekwondo à Rio 2016, a déclaré fuir l'hypocrisie d'un système qui utilise ses sportives à des fins politiques et les humilie. Elle dit « J'ai porté tout ce qu'ils m'ont dit de porter », en parlant du voile islamique. « J'ai répété tout ce qu'ils m'ont ordonné de dire et ils ont mis mes médailles au crédit du respect du voile obligatoire. » En dernier lieu, la Fédération iranienne d'échecs a radié Mehtra Ejazipour, grande maîtresse d'échecs, pour avoir retiré son hijab pendant le championnat du monde de Moscou. Cette joueuse, au parcours glorieux, avait cédé en 2016 aux injonctions et loué le port du voile, mais elle n'a plus supporté cette suggestion. Combien de temps encore nos autorités publiques, politiques et sportives vont-elles détourner le regard devant cette propagande et cet assujettissement des femmes à des normes contraires aux règles et à l'esprit du sport, et de surcroît ici à l'esprit républicain ? L'opportunisme de certains et peut-être la perspective de fin de carrière dans le giron du CIO retiendront-ils l'indignation que tout sportif et plus généralement tout français devrait exprimer devant la mascarade honteuse qui risque de s'étaler sous leurs yeux, faute de réaction. Voilà, donc je vois le temps qui passe très vite. Je vais donc clôturer peut-être sur ce sujet avant de rendre l'antenne bientôt à l'émission qui suit, article 25. Et avant cela, bah, je vais justement sur le même sujet peut-être en profiter pour vous parler d'une association qui n'a de citoyen que le nom, qui s'appelle Alliance Citoyenne et qui souhaite, en France, elle, introduire le sexisme islamiste dans le football. Donc, je vais citer notamment une autre personne féministe, c'est un homme dont j'ai parlé dans mes derniers podcasts qui s'appelle Naïm Bestanji. Donc, c'est sur son site que j'ai pu trouver cette information. Donc, il lutte pour le droit des femmes. C'est un homme pro-féministe et il lutte contre l'islam politique et il lutte contre le voilement des femmes. Donc voilà ce qu'il nous explique sur cette association Alliance Citoyenne en France. Depuis sa création, Alliance Citoyenne est liée à l'islamisme politique. Comme je l'écris régulièrement, cette association est l'illustration la plus éloquente et sans filtre de l'alliance entre une partie de la gauche et de l'extrême droite musulmane. Elle n'a pas la finesse stratégique des frères musulmans, dont elle défend et promeut pourtant l'idéologie à travers le sexisme du voile. Ses actions sont pensées selon la méthode Alinsky, importée des États-Unis, dont le principe est l'auto-organisation pour agréger les colères des petits groupes. Elle ne s'embarrasse donc pas de finesse, même si elle reprend les éléments de langage victimaire et la rhétorique d'inversion de l'islamisme politique. Après ses actions burkinées à Grenoble, puis son action dans une salle de sport lyonnaise, Alliance Citoyenne tente aujourd'hui d'investir les terrains de football. Ce n'est pas la première fois que l'islamisme tente d'investir ce champ, toujours à travers les corps des femmes. Une affaire avait secoué la presse locale grenobloise en 2017, lorsqu'un entraîneur de foot, une entraîneur de foot voilée avait tenté d'imposer son voile au bord du terrain. La Ligue de football avait tenu bon en appliquant son règlement. J'avais justement exposé ce cas lors de mon... Bon, voilà. Alliance Citoyenne, motivée par sa vision sexiste, orientaliste et paternaliste des musulmanes, souhaite investir ce terrain. Dans sa publication Facebook du 26 janvier 2020, elle reprend ses éléments de langage habituels par l'appellation « droit civique des femmes musulmanes ». Le double intérêt est toujours de faire référence à la lutte des droits civiques des Afro-Américains dans les années 60. C'est hors sujet, mensonger. Il n'existe pas de droit civique différencié en France. Irrespectueux envers les militants américains de cette époque. Mais cette instrumentalisation est là pour servir la stratégie victimaire. L'autre intérêt est d'essentialiser toutes les musulmanes au sexisme du voilement, d'instiller dans l'inconscient collectif qu'une musulmane est forcément voilée et de faire de celles qui ne se voilent pas des musulmanes moins pieuses. Elle reprend aussi la rhétorique d'inversion de l'islamisme politique qu'elle applique systématiquement. Le règlement de la Fédération française de football serait discriminatoire envers les joueuses voilées. Ainsi, un règlement applicable à tous, sans distinction de sexe, d'origine ethnique, de religion et d'opinion publique, deviendrait discriminatoire envers la discrimination sexiste matérialisée par le voile. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie donc aux publications de Naïm Bestanji. Vous le trouvez, il publie très régulièrement sur Facebook. Et aussi à la Ligue internationale droit des femmes, vous les trouvez elles aussi sur Internet, sur Facebook, pour en savoir plus sur toutes ces luttes pour les droits des femmes. Donc, puisque il est bien c'est l'heure, je vous dis, je vous remercie de votre soutien pour les droits universels des femmes, et je vous dis à la semaine prochaine et nous vous attendons donc le 8 mars, nombreuses et nombreux, à 14h pour le grand événement du 8 mars à Marseille. Merci et à bientôt.
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.